j'ai plusieurs collections. Donc j'ai une collection d'art contemporain. J'ai une collection de coiffes ethnographiques. Ça, c'est un truc que j'ai développé depuis 20 ans. Et en ce moment, qui est exposé au musée de Grenoble, d'ailleurs. Et puis, j'ai des petites collections comme ça. Bon, l'art primitif aussi, des objets comme ça, bizarroïdes. Et puis, l'art religieux. Je suis passionné d'art religieux et justement d'ex-voto et de reliquaire. Donc ça, j'en ai pas mal. Donc j'ai plusieurs axes comme ça. Et puis en dehors de tout ça, ou de manière transversale, il y a l'art brut que je collectionne depuis très longtemps. Au sens de Dubuffet, c'est-à-dire des gens vraiment qui ne correspondent pas à un art un peu frappé. Un art vraiment... de gens qui n'avaient pas conscience de créer des œuvres, quoi. Donc il y a toute une cohérence entre l'art populaire, l'art primitif, l'art brut, et dans l'art contemporain, des œuvres plutôt peu conceptuelles, puisque je suis arrivé bien après, l'art conceptuel, c'est les années 60. C'est comme une bibliothèque, une collection, il n'y a pas d'hiérarchie, c'est... Simplement, non, il y a plusieurs domaines d'intérêt et on se rend compte avec les années que tout ça se rejoint. Le collectionneur, c'est souvent un type ou une femme qui est enviée, qui est socialement réussi, qui est là, on dit il est génial, c'est un collectionneur, il est comme si, il a une image sociale, d'argent, de réussite, d'intelligence, souvent. En réalité, c'est plutôt un drame, la collection. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement compensatoire, qui est tellement utopiste. C'est-à-dire que c'est un peu le portrait de Dorian Gray. Nous, on vieillit, et puis les œuvres sont toujours là. Elles nous enterrent, elles nous étouffent. Et en fait, la sagesse... On sait tous que c'est le dépouillement. On sait tous ça, les grands philosophes, les grands sages, au-delà du fait qu'on puisse avoir de l'argent ou pas, parce qu'il faut... Je parle jamais de ça, puisqu'effectivement, tout le monde ne peut pas collectionner, mais ceux qui n'ont pas d'argent, ils collectionnent autre chose. Ils collectionnent des capsules de bouteilles de bière, donc c'est le même processus, en fait. Donc il faut dissocier définitivement l'argent de la collection. Mais il y a quelque chose qui est sans fin, qui ne résout rien. Et par ailleurs, c'est une usine à aigreur, à manque, puisque plus on achète, moins on a, plus on génère des manques, plus... Vous voyez, c'est une absurdité en réalité de collectionner. Alors il y a aussi des moments merveilleux, sinon évidemment je ne collectionnerai pas. Mais c'est très angoissant et c'est pas nécessairement ce à quoi pensent les gens. Dans cette pièce, par exemple ici, j'ai fait un petit regroupement d'objets que j'avais fait un petit peu au musée de Lyon, qui est un petit peu comme les différentes solutions d'expliquer sa mort, en fait. Donc la religion, les rites des arts premiers, la magie. Là, il manque... j'avais un objet de psychanalyse aussi dans l'expo, mais je ne l'ai pas là. Mais donc, ce sont des objets que j'aime et que je regroupe comme ça, de manière purement subjective. Voilà. Contrairement à une collection publique, qui est constitué par différentes personnes dans un esprit d'exhaustivité, d'intérêt commun. La collection privée, elle est subjective. Il y en a peut-être qui sont extraordinaires, mais il y en a peu en réalité qui sont extraordinaires. Il y en a qui sont passionnantes quand elles sont une tentative d'autoportrait. Là, ce sont les plus intègres. Quand on a de la chance que les gens aient connu Picasso ou je ne sais qui, tant mieux. La plupart du temps, c'est les potes du quartier, ce sont des collections que le temps ne retiendra pas. Mais il y a quelque chose d'extrêmement beau dans la collection, c'est que les objets ou les œuvres qu'on accumule sont chargés de cette subjectivité et d'une histoire personnelle. C'est-à-dire qu'un objet dans un musée, il n'est là que pour une valeur historique et, ou esthétique ou je ne sais quoi. Nos objets à nous, et ça le visiteur ne peut pas le savoir, ils sont chargés en plus d'une histoire personnelle avec qui on l'a acheté, où, quand, comment, pourquoi, à quel moment, etc. Donc ils sont chargés d'une strate supplémentaire invisible qui leur donne une certaine magie personnelle, une certaine valeur personnelle qui n'est pas toujours visible dans les autres collections, quoi. Moi, je ne suis pas dans un esprit de générosité quand je collectionne. C'est-à-dire que je n'achète jamais pour aider un artiste. D'ailleurs, je n'aime pas cette expression. Je pense toujours que c'est un échange d'argent contre une œuvre, mais que c'est l'artiste qui m'aide. Beaucoup plus que moi. Les artistes ne sont pas des mendiants. On peut les aider publiquement en créant des ateliers, en créant des rencontres, en créant des lieux d'exposition. Mais l'échange entre le collectionneur et l'artiste, c'est un échange, c'est pas un don, vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ce qu'on fait là, et contrairement à ce que vous diront tous les collectionneurs qui mentent tous, parce que ce sont des gens charmants mais souvent menteurs, on le fait pour soi. Et on le fait pour se comprendre aussi. C'est-à-dire pour se comprendre, il y a des tas de possibilités, il y a les religions, la psychanalyse, il y a tout ce que vous voulez. Et la collection, c'est un mode d'autocompréhension, c'est un mode de voyage en soi-même. Moi, j'appelle souvent ça le voyage dans ma tête. C'est souvent un moyen de grandir, de comprendre le monde. Ça c'est un très très beau dessin de Willem van Genk, qui était un artiste qui faisait partie de ce qu'on appelle l'art brut, qui était interné, qui était totalement folié, surtout à la fin de sa vie, et qui était fasciné par les puissances, par Dieu, par Staline, par Hitler, comme souvent les gens de l'art brut. Et c'est un dessin extraordinaire au style Wabi, une vue de Moscou, où on voit CCCP qui est dessiné avec des petits avions de chasse. Et ça, c'est un des... C'est une très belle pièce de l'art brut. Je ne veux pas dire que je réfléchis pas, parce que ce serait quand même un peu simplifier mon cas, mais je me suis toujours laissé porter... beaucoup plus par mon ventre que par ma tête. Toujours, toujours, toujours. Ce qui ne signifie pas qu'il faut étayer cette intuition par des connaissances. Moi, ça fait plus de 25 ans que je regarde tout. Donc, je dois avoir des connaissances, évidemment. Parce que les gens qui ne sont qu'intuitifs, ce qu'on appelle les coups de cœur, sont des gens qui malheureusement, n'ont pas se trompe, parce qu'on ne se trompe jamais. C'est quand on fait ce qu'on aime, on ne se trompe pas. Mais n'ont aucune chance de... qu'une partie de leurs acquisitions soit un jour confirmée par le temps, par l'histoire, par si vous voulez, et au même titre que beaucoup de choses viennent polluer la vie du collectionneur. Par exemple, l'amitié. L'amitié, c'est un truc terrible. Ou l'amitié, l'amour, enfin tous les sentiments qui sont beaux dans la vie courante sont un danger pour le collectionneur.
Pourquoi ?
Ben parce qu'on s'en tiche de quelqu'un, Et on ne voit plus l'œuvre, enfin, c'est un truc. Moi, je suis très méfiant de ça aussi. Je ne veux pas dire que je n'ai pas d'amis artistes, parce que ce serait quand même horrible, mais j'essaie vraiment de dissocier ces amitiés avec l'œuvre. Là, ça, c'est un couple Han. Les Han sont c'est une dynastie chinoise qui a presque 2000 ans. Ce sont les objets de fouilles, de tombes, qui ont été noircis par par les fumées. Et je trouve ça très très bon. On est toujours très fiers d'être considéré comme un grand collectionneur, ou comme un type pointu, ou comme quelqu'un qui a senti les choses avant les autres. Et effectivement, il y a des collectionneurs extraordinaires nous agacent toujours. On n'est pas toujours nécessairement... vous voyez ce que je veux dire ? Mais il y en a certains, oui, que j'aime bien, qui sont des amis. Mais, mis à part les moutons de Panurge dont on parle en ce moment, qui achètent le même artiste au même moment, au même endroit, la plupart des collectionneurs sont très différents. Ils ont des choix... moi, je visite des amis collectionneurs qui ont des choix, pour moi, incompréhensibles. Je me demande comment ils peuvent acheter certaines choses, alors que ce sont des gens intelligents, cultivés, extra, etc. Et inversement, ils pensent de moi la même chose. Donc on est quand même dans des mondes... on est seul, en fait. Il y a des associations de collectionneurs, mais j'y crois pas beaucoup, bien que je fasse partie de certaines. Mais on a les mêmes préoccupations techniques, entre autres. Comment bien acheter, comment revendre éventuellement si on a besoin de revendre pour acheter, comment stocker, comment... à quel endroit il faut aller, bon, tout ça, on en parle, et il y a quelque chose en commun. Mais après, on est seul, comme des chiens, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout, c'est pas du tout une confrérie, c'est pas du tout... Un peu comme les artistes, d'ailleurs, parce qu'en réalité, les artistes... et de plus en plus, parce qu'autrefois, il y avait beaucoup de salons, il y avait beaucoup de mouvements, de collectifs d'artistes, jusqu'aux années 60, aujourd'hui, il y a beaucoup de solitude, je pense, dans les ateliers. Et c'est pareil dans tout le milieu de l'art.
Merci, et puis je vous montre là-bas, ça, parce que ça, c'est intéressant.
On peut dire qu'on est dans votre cuisine.
Oui. Ça, c'est un artiste qui s'appelle... j'ai oublié son nom. Ça y est, c'est la sénilité. J'ai des tas d'œuvres de lui. On coupe.
On coupe.
Ça, c'est une œuvre d'art construit de François Morellet. Néon. Là, il y a des petites accumulations très bien. J'adore l'idée du cabinet contemporain, un petit peu l'idée de Breton aujourd'hui, quoi. Donc ça, c'est un Fontana, c'est une très belle œuvre que j'ai depuis longtemps. Ça, c'est une œuvre de l'artiste Fluxus, Georges Brecht, qui est mort, qui écrit un dessin. Un dessin, un dessin. Le jeu de mots. Schwitters. Ça, c'est une œuvre très drôle d'Eric Dittmann des années 60. Un objet pensé. Wolfgang Leib, c'est cet artiste un peu monacal qui étendait au sol des pollens. C'était très très beau. Donc ça, c'est l'installation. Ça, c'est un dessin de Fontana assez inouï, un nu de Fontana de 46. Et je l'ai acheté dans une vente à l'étranger pour rien du tout. Je me demande même si, pourtant il y avait marqué Fontana, mais ça c'est un très beau petit dessin de Magritte qui est en fait l'étude d'un tableau qui est dans la fondation. Et ça c'est un objet un peu inquiétant et effarant, c'est une tête réduite Givaro. Et le pauvre type avait pas de chance parce qu'apparemment il était esclave puisqu'il a des cheveux négroïdes. Et donc, en plus d'être esclave, il s'est fait couper la tête par les Indiens. Et ça, c'est une très belle pièce d'un artiste qui s'appelle ACM, qui est dans le nord de la France, et qui travaille comme ça, qui fait des accumulations incroyables avec des petits électrodes, des éléments de radio, et qui est une sorte, pour moi, de mini-facteur cheval, en fait. On a la sensation qu'il bâtit des sortes de mausolées, en forme de pyramide, je trouve ça extraordinaire. Alors, si c'est une vraie collection, c'est un autoportrait, ou en tout cas une tentative. Et à ce moment-là, on peut dire que c'est la collection du Schnock, parce que ça ne peut être que lui qui a acheté ça. Mais le problème en ce moment, c'est que sans utiliser des grands mots, mais cette fameuse mondialisation crée quand même une uniformisation et les grandes collections internationales ont tous les mêmes choses. Donc on ne peut plus dire
dis-moi ce que tu achètes, je te dirai qui tu es. C'est plus vrai du tout. Quand vous allez dans une collection à Miami ou à Hong Kong ou à Londres et que vous voyez Kunst, Damien Hirst, machin, truc, ils ont tous les mêmes. Tous les mêmes. Donc, moi qui expose beaucoup de collections, ça commence à me poser des vrais problèmes. Parce que ça m'intéresse moins. Donc on va chercher des collectionneurs un peu plus farfelus, un peu plus découvreurs, un peu plus... avec un peu de mauvais goût. Parce que ça aussi, c'est une chose qui détermine l'intérêt d'une collection. C'est ce mauvais goût, cette manière de flirter avec le mauvais goût. Et quand on regarde l'histoire de l'art du XXe siècle, les grands génies ont toujours été considérés comme des gens de mauvais goût, boudés par tout le monde. Donc il y a ce jeu des grandes collections à toujours être à l'avant et à toujours se faire mal, c'est-à-dire prendre des risques. Donc ça c'est vraiment très important.
Parce que c'est assez amusant. En fait, je m'amuse maintenant à faire des accrochages totalement improvisés, c'est-à-dire sans aucune considération de la rareté, de la valeur, de la notoriété et surtout de l'histoire de l'art. C'est-à-dire que je puise dans mes réserves des choses que j'aime, quasiment en fermant les yeux, quoi. C'est pas loin de ça. Et ensuite, j'accroche comme ça, je fais des piles et j'accroche au format, uniquement au format. Et en fait, je me suis rendu compte que je regardais énormément plus dans ce cas de figure que quand je scénographie en respectant la volonté de l'artiste, etc. Et donc, je vais faire de plus en plus de choses comme ça. Donc là, il y a je sais pas combien d'œuvres, c'est une chambre, il y a 50 œuvres ou plus. Et totalement mélangé. Il y a un Franz West à côté d'un allumé de l'art américain. Il y a un pataphysicien à côté de Tel Coat. Il y a un artiste contemporain belge à côté de Scotty Wilson. Vous voyez, c'est complètement... c'est toutes les choses que j'aime. Et je suis de plus en plus dans cette... dans cette idée, alors c'est peut-être la fin de quelque chose, mais dans cette idée de que tout m'intéresse, quoi, et que je n'ai plus d'hiérarchie, aucune hiérarchie. Aucune hiérarchie. Alors ça c'est une bonne question, la transmission, parce que c'est une angoisse... qui apparaît petit à petit avec les années. Au début, on s'en fout, on est là, bon. Et puis 50 ans, 60 ans. Et là, tous mes amis collectionneurs se posent beaucoup de questions. C'est très compliqué. Parce que... Alors, tout dépend, bien sûr, s'ils ont une descendance. Si vous avez des enfants, une collection, c'est aussi de l'argent. C'est comme... Il y en a qui achètent des maisons, d'autres achètent un tableau. Bon, vous ne pouvez pas non plus ruiner vos enfants. Quand vous voyez, tout ça... sont des préoccupations sociales classiques, pas seulement liées aux collections d'art. Et donc, c'est une vraie question. Moi, j'aimerais bien en donner une partie, entre autres l'ethnographie, par exemple. Je vois pas ce que mes enfants foutraient de coiffe ethnographique. Il y en aurait une sur le frigidaire de l'un, l'autre dans la cave. Enfin bon, ça n'aurait aucun sens. Donc j'aimerais bien un jour faire don de cette collection. Et puis pour le reste, il y a deux cas de figure, très simples, moi je pense, c'est que soit vos enfants ont réussi, pourquoi pas, ça peut arriver, et ils n'ont pas vraiment besoin de... Ils acceptent de ne pas hériter, ils n'ont pas besoin nécessairement d'hériter d'une collection, et à ce moment-là, on peut faire don à des musées, ça c'est le rêve, en fait, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Soit on est tous fauchés, ce qui sera fort probable dans mon cas, et on fait une belle vente, une superbe vente, avec un catalogue
qui sera la trace de ma vie et de la collection. Et voilà, et c'est terminé, et les enfants obtiennent un peu d'argent en succession. Vous voyez, je crois qu'il n'y a pas de... Mais c'est un vrai problème, et beaucoup de collectionneurs se posent la question. Et de toute façon, la plupart du temps, quand ils n'ont pas résolu la question, les collections, à la mort du collectionneur, l'État réclame une part importante, de l'ordre de 60%, je crois. Et donc la collection est vendue, éparpillée, donc c'est assez triste. Donc autant essayer de résoudre dans la légalité une situation avant de disparaître, quoi. Mais bon, je crois que c'est assez clair.
C'est beau ça, la collection, elle est dans la tête.
Oui, elle est... La collection est beaucoup dans la tête. En fait, les œuvres, elles continuent à vivre où qu'elles soient. C'est un... Mais ce que j'ai pas dit aussi, c'est que je prêtais quand même beaucoup pour des expositions. Elle est en vie quand même, elle est... Voilà.
Merci.